Camille eut du mal à descendre les escaliers. Elle était percluse de courbatures et souffrait d'une migraine épouvantable. Comme si quelqu'un lui avait enfoncé un couteau dans l'œil droit et s'amusait à tourner délicatement la lame au moindre de ses mouvements. Arrivée dans le hall, elle se tint au mur pour retrouver l'équilibre. Elle grelottait, elle étouffait. Elle songea un moment à retourner se coucher, mais l'idée de remonter ses 7 étages lui parut moins surmontable encore que celle d'aller travailler. Au moins, dans le métro, elle pourrait s'asseoir. Au moment où elle franchissait le porche, elle buta contre un ours. C'était son voisin vêtu d'une longue pelisse.
« Oh pardon, monsieur, je... »
Il leva les yeux.
« Camille, c'est vous ?»
N'ayant pas le courage d'assurer la moindre causette, elle fila sous son bras.
« Camille, Camille !»
Elle piqua du nez dans son écharpe et accéléra le pas. Cet effort l'obligea bientôt à s'appuyer sur un horodateur pour ne pas tomber.
« Camille, ça va ? Mon Dieu, mais... qu'avez-vous fait à vos cheveux ? Oh, mais quelle mine vous avez ! Quelle mine épouvantable ! Et vos cheveux ! Vos si beaux cheveux !
Je dois y aller là, je suis déjà en retard.
Mais il fait un froid de gueux, mon ami ! Ne marchez pas tête nue, vous risqueriez de mourir ! Tenez, prenez ma chapka au moins !
Camille fit un effort pour sourire.
Elle appartenait à votre oncle aussi ?
Diantre non ! Plutôt à mon bisaïeul, celui qui a accompagné ce petit général dans ses campagnes de Russie.
Il lui enfonça son chapeau jusqu'aux sourcils.
Vous voulez dire que ce truc-là a fait Austerlitz ?
Parfaitement. La Bérézina aussi, hélas. Mais vous êtes toute pâle. Vous êtes sûre que vous vous sentez bien ?
Un peu fatiguée.
Dites-moi, Camille, vous n'avez pas trop froid là-haut ?
Je ne sais pas. Bon, j'y vais là. Merci pour la toque.
Engourdie par la chaleur de la rame, elle s'endormit et ne se réveilla qu'au bout de la ligne. Elle s'assit dans l'autre sens et enfonça son bonnet d'ours sur ses yeux pour pleurer d'épuisement. Oh, ce vieux truc puait affreusement. Quand enfin elle sortit à la bonne station, le froid qui la saisit fut si cinglant qu'elle dut s'asseoir sous un abribus. Elle se coucha en travers et demanda au jeune homme qui se trouvait près d'elle de lui happer un taxi. Elle remonta chez elle sur les genoux et tomba de tout son long sur son matelas. Elle n'eut pas le courage de se déshabiller et songea, l'espace d'une seconde, à mourir sur le champ. Qui le saurait ? Qui s'en soucierait ? Qui la pleurerait ? Elle grelottait de chaleur et sa sueur l'enveloppa d'un linceul glacé. Philibert se releva vers 2 heures du matin pour aller boire un verre d'eau. Le carrelage de la cuisine était gelé et le vent cognait méchamment contre les carreaux de la fenêtre. Il fixa un moment l'avenue désolée en murmurant des bribes d'enfance. Voici venir l'hiver, tueur des pauvres gens. Le thermomètre extérieur affichait -6 et il ne pouvait s'empêcher de penser à ce petit bout de femme là-haut. Dormait-elle, elle, et qu'avait-elle fait de sa chevelure, la malheureuse ? Il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas la laisser comme ça. Oui, mais son éducation, ses bonnes manières, sa discrétion, enfin, l'emberlificotait dans d'infinis palabres. Était-ce bien convenable de déranger une jeune fille en pleine nuit ? Comment allait-elle le prendre ? Et puis, peut-être qu'elle n'était pas seule après tout. Et si elle était nue ? Oh non, il préférait ne pas y songer. Et comme dans Tintin, l'ange et le démon se chamaillaient sur l'oreiller d'à côté. À 3h54, il chercha ses chaussettes dans le noir. Le ray de lumière qui filtrait sous sa porte lui redonna du courage.
« Mademoiselle Camille ?»
Puis, à peine plus fort,
« Camille ! Camille, c'est Philibert !»
Pas de réponse. Il essaya une dernière fois avant de rebrousser chemin. Il était déjà au bout du couloir quand il entendit un son étouffé.
« Camille, vous êtes là ? Je me faisais du souci pour vous et je... »
Porte ouverte.
La soupente était glacée. Il eut du mal à entrer à cause du matelas et buta contre un tas de chiffons. Il s'agenouilla, souleva une couverture, puis une autre, puis une couette, et tomba enfin sur son visage. Elle était trempée. Il posa sa main sur son front.
« Mais vous avez une fièvre de cheval. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Pas ici, pas toute seule, et votre cheminée ?»«
Pas eu le courage de la déplacer. »«
Vous permettez que je vous emmène avec moi ?»«
Où ?»«
Chez moi. »«
Pas envie de bouger. »«
Je vais vous prendre dans mes bras. »«
Comme un prince charmant. »
Il lui sourit.
Allons bon, vous êtes si fiévreuse que vous délirez à présent.
Il tira le matelas au milieu de la pièce, lui défit ses grosses chaussures et la souleva aussi peu délicatement que possible.
Hélas, je ne suis pas aussi fort qu'un vrai prince. Vous pouvez essayer de passer vos bras autour de mon cou, s'il vous plaît ?
Elle laissa tomber sa tête sur son épaule et il fut dérouté par l'odeur aigre qui émanait de sa nuque. L'enlèvement fut désastreux. Il cognait sa belle dans les tournants et manquait de tomber à chaque marche. Heureusement, il avait pensé à prendre la clé de la porte de service et n'eut que 3 étages à descendre. Il traversa l'office, la cuisine, faillit la faire tomber 10 fois dans le corridor et la déposa enfin sur le lit de sa tante Edmée.
Écoutez-moi, je dois vous découvrir un peu, j'imagine. Enfin, c'est très embarrassant, quoi.
Elle avait fermé les yeux. Bon, Philibert Marquet de la Durbellière se trouvait là dans une situation fort critique. Il songea aux exploits de ses ancêtres, mais la convention de 1793, la prise de Cholet, le courage de Catelineau et la vaillance de La Roche-Jacquelin lui semblèrent bien peu de choses tout à coup. Camille murmura.
Soif.
Son sauveur se précipita dans la cuisine. Après l'avoir fait boire, il prit son courage à deux mains et la déshabilla. Ce ne fut pas facile car elle était plus couverte qu'un oignon. Il lui ôta d'abord son manteau, puis sa veste en jean. Vint ensuite un pull, un deuxième, un col roulé et enfin une espèce de liquette à manches longues. « Bon, se dit-il, je ne peux pas la lui laisser, on pourrait presque l'essorer. Bon, tant pis, je verrai son... Enfin son soutien... Horreur, par tous les saints du ciel, elle n'en portait pas. » Vite, il rabattit le drap sur sa poitrine. Bien. Le bas, maintenant. Il était plus à l'aise car il pouvait manœuvrer à tâtons en passant par-dessous la couverture. Il tira de toutes ses forces sur les jambes de son pantalon. Dieu soit loué, la petite culotte n'était pas venue avec.
Camille, vous avez le courage de prendre une douche ?
Pas de réponse. Il secoua la tête de désapprobation, alla dans la salle de bain, remplit un broc d'eau chaude dans lequel il versa un peu d'eau de Cologne et s'arma d'un gant de toilette. Courage soldat. Il défit le drap et la rafraîchit du bout du gant d'abord, puis plus vaillamment. Il lui frotta la tête, le cou, le visage, le dos, les aisselles, les seins, puisqu'il le fallait, et pouvait-on appeler cela des seins, d'ailleurs, le ventre et les jambes. Pour le reste, ma foi, elle verrait. Il essora le gant et le posa sur son front. Il lui fallait de l'aspirine à présent. Il empoigna si fort le tiroir de la cuisine qu'il en renversa tout le contenu sur le sol. Fichtre, de l'aspirine, de l'aspirine. Frank se tenait sur le pas de la porte, le bras passé sous son t-shirt en train de se gratter le bas-ventre.
Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi tout ce merdier ?
Je cherche de l'aspirine.
Dans le placard ?
Merci.
T'as mal au crâne ?
Non, c'est pour une amie.
Ta copine du 17e ?
Oui.
Frank ricana.
Attends, t'étais avec elle là ? T'étais là-haut ?
Oui, pousse-toi s'il te plaît.
Arrête, j'y crois pas. Bah t'es plus puceau alors ?
Ses sarcasmes le poursuivaient dans le couloir.
Hé, hey, elle te fait le coup de la migraine dès le premier soir, c'est ça ? Putain, bah, t'es mal barré, mon gars. Hein.
Philibert referma la porte derrière lui, se retourna et murmura distinctement.
Ta gueule à toi aussi.
Il attendit que le comprimé ait rendu toutes ses bulles, puis la dérangea une dernière fois. Il crut l'entendre chuchoter « Papa ». À moins que ce ne fût « Pa-pa ». Car elle n'avait probablement plus soif, et ne savait pas. Il remouilla le gant, tira les draps et resta là un moment, interdit, effrayé et fier de lui. Oui, fier de lui. Camille fut réveillée par la musique de U2. Elle crut d'abord être chez les Kessler et s'assoupit de nouveau. Non, s'embrouillait-elle. Non, ce n'était pas possible, ça. Ni Pierre, ni Mathilde, ni leur bonne ne pouvaient balancer Bono à plein volume de cette manière. Il y avait un truc qui ne collait pas, là. Elle ouvrit lentement les yeux, gémit à cause de son crâne et attendit dans la pénombre de pouvoir reconnaître quelque chose. Mais où était-elle ? Qu'est-ce que... Elle tourna la tête. Tout son corps regimbait. Ses muscles, ses articulations et son peu de chair lui refusaient le moindre mouvement. Elle serra les dents et se releva de quelques centimètres. Elle frissonnait et était de nouveau couverte de transpiration. Son sang lui battait les tempes. Elle attendit un moment, immobile et les yeux clos, que la douleur s'apaise. Elle rouvrit délicatement les paupières et constata qu'elle se trouvait dans un lit étrange. Le jour passait à peine entre les interstices des volets intérieurs et d'énormes rideaux en velours, à moitié décrochés de leurs tringles, pendaient misérablement de chaque côté. Une cheminée en marbre lui faisait face, surplombée d'un miroir tout piqueté. La pièce était tendue d'un tissu à fleurs, dont elle ne distinguait pas très bien les couleurs. Il y avait des tableaux partout, des portraits d'hommes et de femmes vêtus de noir, qui semblaient aussi étonnés qu'elle de la trouver là. Elle se tourna ensuite vers la table de nuit et aperçut une très jolie carafe gravée à côté d'un verre à moutarde Scooby-Doo. Elle mourait de soif et la carafe était remplie d'eau, mais elle n'osa pas y toucher. À quel siècle l'avait-on remplie? Où était-elle, bon sang, et qui l'avait amenée dans ce musée? Il y avait une feuille de papier pliée en deux contre un bougeoir.
« Je n'ai pas osé vous déranger ce matin. Je suis parti travailler. Je reviens vers 7 heures. Vos vêtements sont pliés sur la bergère. Il y a du canard dans le réfrigérateur et une bouteille d'eau minérale au pied du lit. Philibert. »
Philibert? Mais qu'est-ce qu'elle fichait dans le lieu de ce garçon? Au secours! Elle se concentra pour retrouver les bribes d'une improbable débauche, mais ses souvenirs n'allaient pas au-delà du boulevard Brune. Elle était assise, pliée en deux sous un abribus, et suppliait un grand type avec un manteau sombre de lui appeler un taxi. Était-ce Philibert? Non, pourtant. Non, ce n'était pas lui, elle s'en serait souvenue. Quelqu'un venait d'éteindre la musique. Elle entendit encore des pas, des grognements, une porte qui claquait, une deuxième, et puis plus rien. Le silence. Elle avait une envie pressante, mais attendit encore un moment. Attentive au moindre bruit et déjà épuisée à l'idée de bouger sa pauvre carcasse. Elle poussa les draps et souleva l'édredon qui lui sembla peser aussi lourd qu'un âne mort. Au contact du plancher, ses orteils se recroquevillèrent. Deux babouches en chevreau l'attendaient à la lisière du tapis. Elle se leva, vit qu'elle était vêtue d'un haut de pyjama d'homme, enfila les chaussons et mit sa veste en jean sur ses épaules. Elle tourna la poignée tout doucement et se retrouva dans un immense couloir très sombre, d'au moins 15 mètres de long. Elle cherchait les toilettes. Le battant était en bois, ainsi que la poignée de la chasse d'eau. La cuvette, vu son âge, avait dû voir des générations de popotins en crinoline. Camille eut quelques réticences d'abord, mais non, tout cela fonctionnait parfaitement. Le bruit de la chasse était déroutant, comme si les chutes du Niagara venaient de lui tomber sur la tête. Elle avait le vertige, mais continua son périple à la recherche d'une boîte d'aspirine. Elle entra dans une chambre où régnait un bazar indescriptible. Des vêtements traînaient partout au milieu de magazines, de canettes vides et de feuilles volantes, bulletins de paye, fiches techniques de cuisine, manuels d'entretien GSXR, ainsi que différentes relances du trésor public. On avait posé sur le joli lit Louis XVI une horrible couette bariolée et du matos à fumette attendait son heure sur la fine marqueterie de la table de nuit. Bon, ça sentait le fauve là-dedans. La cuisine se trouvait tout au bout du couloir. C'était une pièce froide, grise, triste, avec un vieux carrelage pâle rehaussé de cabochons noirs. Les plans de travail étaient en marbre et les placards presque tous vides. Rien, si ce n'était la présence bruyante d'un antique frigidaire, ne pouvait laisser supposer que des gens vivaient là. Elle trouva le tube de comprimé, prit un verre près de l'évier et s'assit sur une chaise en formica. La hauteur sous plafond était vertigineuse et le blanc des murs retint son attention. Ce devait être une peinture très ancienne, à base de plomb, et les années lui avaient donné une patine veloutée, ni cassée, ni coquille d'œuf. C'était le blanc du riz au lait ou des entremets fades de la cantine. Elle procéda mentalement à quelques mélanges et se promit de revenir un jour avec 2 ou 3 tubes pour y voir plus clair. Elle se perdit dans l'appartement et crut qu'elle n'allait jamais retrouver sa chambre. Elle s'écroula sur le lit, songea un instant à appeler l'autre commère de chez Touclean et s'endormit aussitôt.